Radio Kapi.
Visite du Premier ministre hier à Bunia dans la province de l'Ituri. Samalou Kondé y est allé évaluer l'état de siège en vue de prendre des dispositions nécessaires pour la restauration de l'autorité de l'État. L'Assemblée nationale examine à partir de ce jeudi la proposition de loi portant modification de la loi électorale. Au total, 4 propositions de loi et plusieurs amendements ont été soumis à la Chambre basse du Parlement et seront utilisés comme texte d'enrichissement. Notre invité, c'est Maître Jean-Marie Kabengela, un des avocats de Vital Kamerhe. Il revient sur la décision de la Cour de cassation et en renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Bonjour à tous. Sachez tout d'abord que le secrétaire général des Nations Unies a eu une conversation téléphonique mercredi avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général a exprimé sa préoccupation concernant la résurgence des activités du mouvement du 23 mars, M23, dans la province du Nord-Kivu, ainsi que l'impact sur la population civile et l'accès humanitaire. Le secrétaire général a salué les efforts du président Tshisekedi pour favoriser la coopération entre le pays et de la région. Il a également réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner les initiatives en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région. Évaluer l'état de siège en Ituri en vue de prendre des dispositions nécessaires pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province, c'est l'objectif de la visite à Bunia hier mercredi du Premier ministre Samalou Kondé. Au cours d'une réunion élargie aux parlementaires de l'Ituri, le chef du gouvernement congolais a réaffirmé la volonté de la RDC d'exécuter rapidement le projet de développement des 145 territoires que compte le pays. Martial Kizabiamungu, qui a couvert cette visite, nous fait le point.
Le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation composée de 8 ministres, a échangé avec les parlementaires sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'Ituri en cette période de l'état de siège, dans le but d'évaluer les avancées dans ces secteurs et les défis à relever en vue de restaurer la paix dans cette province. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, cette mission s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la situation sécuritaire.
D'abord, c'est une marque de solidarité et de compassion parce que la population de l'Ituri est meurtrie depuis bien longtemps par ce qui se passe, mais c'est aussi démontrer que le gouvernement reste engagé et déterminé à contribuer à utiliser tous les moyens pour le retour de la paix effective dans cette partie du pays.
Pour la majorité des parlementaires de l'Ituri, on doit redéfinir les systèmes sécuritaires dans cette province. Ces élus font allusion au changement des responsables de toutes les unités engagées dans les opérations. Selon eux, c'est la cause de certaines faiblesses observées dans la lutte contre les groupes armés pendant cette période exceptionnelle. Samalou Kondé a aussi abordé la question de l'application du projet du gouvernement des 145 territoires dont l'Ituri est concerné. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
37 organisations de la société civile appellent à la fin de la répression et au respect des droits humains dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sous état de siège. Dans une lettre adressée hier mercredi au Premier ministre, ces ONGDH s'inquiètent de la dégradation de la situation des droits humains et des massacres continus dans ces deux provinces depuis l'instauration de l'état de siège. À titre illustratif, il y a près de 2 semaines, soutiennent-elles, un tribunal militaire à Goma a condamné 12 activistes du mouvement citoyen Lucha à 1 année de prison pour avoir manifesté devant la mairie de Goma en protestation des massacres. Jeff Ngoy pour les détails.
Au regard de cette dégradation de la situation des droits humains, les défenseurs des droits de l'homme recommandent au Premier ministre notamment d'appeler publiquement à la libération de toute personne arrêtée ou condamnée pour avoir critiqué l'état de siège, de demander des sanctions contre tout membre de l'armée ou de la police qui s'est distingué dans les actes d'atteinte aux droits humains, y compris tuerie et torture. Ils recommandent également à Samalou Kondé d'interpeller les autorités militaires sur le droit de la population à s'exprimer librement durant cette période et éviter de recourir à la force. La voix de sans voix, la synergie Ukingo-Wetu, la nouvelle société civile congolaise Hakizango, le groupe Lotus et tant d'autres ONGDH demandent au chef du gouvernement de rendre aussi une visite de soutien aux personnes détenues pour avoir exprimé leur point de vue sur l'état de siège et de faire adopter la loi portant modalité pratique de l'application de la mesure sécuritaire imposée par l'article 85 alinéa 3 de la Constitution.
Pendant ce temps, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC est arrivé à Beni hier en milieu d'après-midi. Dès son arrivée, Kassim Diane a rencontré le maire de la ville avec qui il a notamment discuté de la situation sécuritaire. Après la rencontre, le commissaire supérieur principal Muteba Kachalé a salué la collaboration entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour assurer la paix dans cette région encore en proie à l'activisme de groupes armés. Kassim Diane va rester à Beni jusqu'à ce jeudi. Son programme prévoit notamment l'inauguration d'un projet d'éclairage public financé par la MONUSCO à Mavivi. Toujours au Nord-Kivu, le secteur central de la force de la MONUSCO a mené 77 opérations entre les 6 et les 9 avril dernier, entre autres dans les territoires de Rutshuru. Ce bilan a été présenté au cours d'un point de presse mardi à Goma par le porte-parole du secteur. L'objectif, selon lui, est d'assurer la protection des civils dans les lieux touchés par l'activisme et les attaques des groupes armés. Les opérations qui comprennent notamment les patrouilles des combats et rencontres visent aussi à se rendre compte de la situation des personnes déplacées dans ces zones afin de bien assurer leur protection, comme l'explique le chargé d'information publique du secteur central, le major Sachin Kokar, dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
Mission de déploiement des combats statiques, les patrouilles de longue portée, les réunions sécuritaires, les chefs d'engagement clés avec les leaders locaux, les patrouilles conjointes, les missions héliportées depuis le 6 avril jusqu'à ce jour. Toutes ces missions-là visaient à anticiper les préoccupations des protections des civils, surveiller et évaluer la situation sécuritaire dans la région, ainsi que renforcer la confiance des populations locales au casque bleu. Là où le secteur vit la présence des rebelles du M23, le secteur a mené des patrouilles de domination de terrain, blindées et motorisés, d'autres patrouilles pédestres pour montrer la présence des casques bleus, mais aussi anticiper la protection des civils parce que les civils ne doivent pas être victimes des bavures commises par les deux parties qui s'affrontent, les forces gouvernementales ou les éléments des rebelles. Nous sommes partenaires avec nos amis de FARDC, de la PNC, ceux de l'ANR et d'autres structures sécuritaires. Souvent pendant la semaine, il y a des réunions organisées pour au moins parler de la sécurité, mais aussi établir le système de partage d'informations et les alertes précoces sur des situations qui menace les civils. Renforcer la confiance de la population au casque bleu de la MONUSCO.
This spectacular effort.
Notons que parallèlement à ces opérations militaires, plusieurs autres activités ont été réalisées en faveur des populations civiles dans ces zones instables pendant cette période par différentes sections substantives de la MONUSCO, notamment Affaires civiles, Affaires politiques, UNPOL et section protection de l'enfant. Début ce jeudi à l'Assemblée nationale de l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi électorale, une des matières prioritaires de cette session. Un fort engouement s'observe à la chambre basse du Parlement autour de l'examen de cette loi, tant attendue, pour déterminer les règles de jeu au cours des prochaines élections. En plus de la proposition de loi du G13 portée par Jacques Joly, qui sera soumise à l'examen comme texte de base, trois autres propositions de loi et plusieurs amendements ont aussi été soumis à l'Assemblée nationale et seront utilisés comme texte d'enrichissement. Quelles sont donc les grandes innovations de la loi Lokondo, Michel Kifindangoy?
La proposition de loi électorale du G7, dite la loi Lokondo, a pris en compte les avis de toutes les tendances de la classe politique, mais aussi de la société civile, affirme Jacques Joly. Elle propose donc plusieurs innovations pour corriger les irrégularités déplorées au cours des élections de 2018. Ces innovations touchent principalement à la transparence du processus des votes, au mode du scrutin et à la certification des résultats. Parmi elles, il y a entre autres le remplacement du seuil électoral par une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition, l'interdiction du cumul des candidatures, de porter comme suppléant un membre de famille, ainsi que l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. La distribution de l'argent et des biens de valeur aux électeurs est aussi prohibée. Le vote électronique, la dimension genre, l'obligation de publier la cartographie électorale et les résultats bureau de vote par bureau de vote sont aussi pris en compte. Au niveau du contentieux électoral, électorale, le recomptage de voix est aussi obligatoire, partant des plis des résultats réservés à la Cour, sans exiger aux partis d'exhiber les PV.
En réaction, la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC, un mouvement politique membre de la plateforme Lamouka, s'oppose à l'examen de la proposition de loi portant sur la loi électorale prévue c'est jeudi 14 avril. Dans une déclaration à la presse mardi, Jean-Pierre Lissangabonganga, président de cette structure, estime que cette loi ne peut être examinée qu'après celle relative à l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante qui, du reste, appelle un consensus de la classe politique congolaise. Lutte contre la COVID-19 en RDC, une campagne de vaccination accélérée de mars et jeudi à Kinshasa, c'est jusqu'au 20 avril. Elle cible toute personne âgée de 18 ans et plus. Pour l'antenne provinciale du programme élargi de vaccination qu'il organise avec ses partenaires, le but est de minimiser l'impact d'une probable cinquième vague de cette pandémie en RDC. La situation est redevenue calme hier mercredi à travers toute la ville de Mbandaka. Les boutiques et magasins ont rouvert, particulièrement au grand marché de Mbandaka 2. Même chose au marché de Mbandaka 3, où les manifestants ont également pillé le sous-commissariat de la police. En revanche, aucune activité académique n'a été constatée à l'UNIMBA, à l'ISP, à l'ISDER et à l'ISTEM. Chaque établissement a fermé son entrée principale jusqu'à nouvel ordre, soit affiché un communiqué annonçant la reprise ultérieurement. Entre-temps, le comité de gestion de l'ISTEM Mbandaka a fait son rapport de la situation qui a prévalu lundi et mardi devant la presse. Suivez l'extrait du rapport lu par le professeur Ikolongo Befembo, secrétaire général académique, au micro de Paul-Richard Malengela.
Le comité de gestion décline la responsabilité des actes posés en dehors de l'ISTEM Mbandaka, conformément aux textes légaux et réglementaires régissant l'enseignement supérieur et universitaire. Quant aux événements survenus le mardi 12 avril 2022, marqués notamment par l'incendie de la maison communale de Wangata et la mort d'homme, le comité de gestion indique que ces événements se sont déroulés loin du site universitaire au moment où le cours s'est donné normalement à l'ISTEM Mbandaka. Après vérification des documents académiques, il s'avère que M. Bomame Mbombo Freddy, qui est décédé, n'est pas étudiant en deuxième année de graduat gestion des institutions de santé pour l'année académique 2021-2022. Compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans la ville de Mbandaka, le comité de gestion a procédé, à titre provisoire, à la suspension des activités académiques. De ce qui précède, le comité de gestion de l'ISTEM Mbandaka exhorte les autorités provinciales à rétablir l'ordre public afin d'éviter l'escalade de la violence et permettre ainsi la reprise prochaine des activités académiques dans un climat apaisé.
Par ailleurs, la confusion règne encore sur l'appartenance du présumé étudiant abattu mardi dernier par la police. Le recteur de l'UNIMBA et celui de l'ISTEM ne les reconnaissent pas. Ils affirment que son nom ne figure pas sur la liste des étudiants pour cette année académique. Au Maniema, bonne nouvelle pour tous les voyageurs. La compagnie d'aviation Congo Airways vient de reprendre sa flotte sur la ligne Kindu-Kinshasa. La confirmation est de l'un des pilotes de cette compagnie qui l'a annoncé après une audience lui accordée par le gouverneur intérimaire de la province. Et pour clore la première partie de ce journal, sachez que l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, a procédé à la signature de l'échange des notes avec Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en vue de la mise en œuvre du projet d'amélioration du terminal conteneur du port de Matadi. C'est dans le cadre du financement à hauteur de 21 millions de dollars américains du projet d'amélioration du port de Matadi. Avec ce projet, le Japon entend notamment contribuer à l'amélioration du transbordage à travers la réhabilitation du terminal conteneur du port de Matadi et faciliter les approvisionnements et l'expédition des marchandises par des mécanismes de transbordement fiables et respectueux de l'environnement, a indiqué M. Minami.
Actualité internationale.
Le bilan des inondations dévastatrices en Afrique du Sud causées par des fortes pluies sur la côte est et monté à plus de 300 morts, a indiqué mercredi soir à l'AFP le bureau de gestion des catastrophes. Le 13 avril au soir, nous avons été informés que le bilan des inondations dans le KwaZulu-Natal s'élève à 306 morts, a déclaré Nonala Ndlovu, porte-parole. Un précédent bilan faisait état de 259 morts.
L'invité
du jour, c'est maître Jean-Marie Kabengela, un des avocats de Vital Kamere. Il revient sur la décision de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire Kamere devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée. Jean-Marie Kabengela répond aux questions de Dona Madimba.
Jean-Marie Kabengela, bonjour.
Bonjour.
Après la décision de la Cour de cassation de casser le verdict en appel de 13 ans de travaux forcés contre Vital Kamerhe, votre client, et le renvoi de votre client justement devant de nouveaux juges pour un nouveau procès en appel, votre camp semble avoir reçu favorablement cette décision de la Cour de cassation. Vous confirmez? Si oui, pourquoi vous réjouissez-vous?
Bon, nous saluons cette décision parce que elle est conforme au texte régissant le droit de la défense et la mission de la Cour de cassation. Cette Cour a reçu la requête confirmative de notre client et l'ayant examinée a trouvé un des moyens fondés en portant cassation avec renvoi. Ces moyens étaient relatifs à la violation du droit de la défense en ce que le juge d'appel, au lieu de citer notre client à comparaître via une citation à prévenu, avait procédé par une simple notification de date d'audience.
Mais maître Kabengela, un certain nombre de vos confrères juristes qui analysent cette décision de la Cour de cassation pensent que cette Cour n'avait pas raison d'indiquer la raison que vous venez d'évoquer, vu que la peine de 20 ans encourue par votre client ne risquait pas d'être aggravée.
C'est ça la faiblesse de ceux qui ne lisent pas les dossiers, qui n'ont pas regard dans les dossiers. En effet, le ministère public était en appel et notre client était poursuivi pour plusieurs chefs d'infraction. Une seule a été retenue par le premier juge. Il était possible pour le juge d'appel de reconsidérer les infractions dites non établies et de faire le cumul de peine. En ce moment-là, la situation de notre client allait être aggravée.
Mais comment cela pouvait-il s'aggraver, vu que pour des détournements de deniers publics dont était question dans le cas de votre client, ne pouvait pas donner lieu à une peine plus importante que les 20 ans?
Ça allait s'aggraver en ce sens que, après avoir purgé la peine de 20 ans, si le juge d'appel suivant l'appel du ministère public à aggraver le sort de notre client, il y aurait cumul de peine. On allait partir de 20 ans plus 15 ans ou plus 10 ans, de façon que sur le plan pratique, vous terminez d'épurger une peine et vous recommencez l'autre.
Mais donc, au finish, le procès en appel a établi que 13 ans de travaux forcés et donc la peine n'a pas été aggravée. Pourquoi était-il alors nécessaire d'aller en cassation?
Il était nécessaire d'aller en cassation parce qu'on n'était pas convaincu que le juge d'appel avait bien fait le travail. Parce que en étant saisi de l'appel, et après le retour du dossier à la suite du renvoi des juridictions, la Cour d'appel ne pouvait procéder que par voie de citation prévenue, ce que la Cour n'avait pas fait. Donc, pour cette raison-là, nous sommes allés en cassation avec beaucoup d'autres moyens.
Jean-Marie Kabengela, maintenant, la Cour de cassation a décidé qu'un nouveau procès en appel va avoir lieu. Est-il possible pour vous qu'au terme de ce nouveau procès en appel, que Vital Kamerhe soit totalement blanchi et innocenté?
Et c'est ça le travail que nous sommes en train de mener, de convaincre ce juge-là qui était hier. Nous avons de preuves que nous avions déjà produites devant ce juge d'appel et même devant le premier juge qui vont le convaincre à quitter notre client. Hier, nous avons suivi sur vos antennes quelques praticiens qui ne connaissaient pas le dossier, qui ont pensé que la Cour de cassation aurait mal dû le droit. Nous disons non, qu'il soit retenu une fois pour toutes que les lois sur les compétences judiciaires, les lois relatives à la procédure pénale, les lois relatives au droit pénal de fond sont des lois d'ordre public. Au point que même si la question n'a pas été soulevée devant le juge de fond, le juge de cassation peut soulever la question d'office
Jean-Marie Kabengela, dernière question. Si jamais ce n'est aucun souhait de personne, nous n'avons aucun parti à prendre dans ce qui se passe dans le procès Vital Kamerhe, mais c'est une question à poser. Si jamais la peine de 20 ans de prison décidée en première instance était finalement retenue dans ce nouveau procès en appel, qu'est-ce que vous, parti de Vital Kamerhe, allez faire? Est-ce que vous allez encore aller en cassation?
Rappelez-vous, dès le prononcé du jugement de premier degré, j'avais dit, et par ma bouche, le collectif de la défense de Vital Kamerhe avait dit que ce jugement-là renfermait en son sein les germes de sa propre destruction. Et nous ne pensons pas qu'avec la sagesse que l'on puisse reconnaître à un juge indépendant que les mêmes erreurs se reproduiraient. Et si jamais ces erreurs-là se reproduiraient, il y a beaucoup de voies de recours qui sont garanties à toute personne, non seulement au niveau interne, mais également sur le plan international. Il y a des voies de recours sur le plan africain, il y a des voies de recours sur le plan des Nations Unies. On est préparé pour défendre notre client jusqu'au bout parce que nous croyons à son innocence.
Jean-Marie Kabengela, je vous remercie.
C'est moi.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi sous la supervision de Martin Sebujangwe et mis en onde par Willem Lungamba. Merci de l'avoir suivi.